Alors, ça vient tout juste de se produire, là. Donc, François Ouimet, donc le député de Marquette, il est là depuis 1994. C'était le doyen, ben, avec le Gendron qui s'en va, là. Mais une fois que Gendron, mettons, il était avec le député de Bro-Missisquoi, Pierre Paradis. En fait, il serait devenu le doyen s'il était resté. Disons-le comme ça. Gendron s'en va, Paradis s'en va. C'est Ouimet, François Ouimet, qui serait devenu le doyen. Et là, il a donné un point de presse où il peinait vraiment là, à retenir ses larmes. Là. C'était très difficile pour lui. Et il a dit, écoutez, j'ai rencontré Philippe Couillard au mois de mai. Puis il m'a dit qu'il allait signer mon bulletin de candidature. Il m'a regardé dans les yeux. Puis il m'a dit, je te ferai pas d'entourloupette. Puis il dit, quand tu t'aperçois que ton chef, dans le fond, n'a pas tenu sa parole, ça fait mal. Je paraphrase ce qu'il a dit, là, je ne le cite pas au mot. Est-ce qu'on peut, l'écouter? Allons-y.
Que les mesures prises dans les derniers jours à mon égard sont blessantes. Pour moi et ma famille, autant qu'elles sont inattendues et vont à l'encontre de l'engagement pris par le Premier ministre qui m'a regardé dans les yeux, m'a serré la main et m'a réitéré sa confiance de vive voix en mai dernier en me disant « Inquiète-toi pas, je ne te jouerai pas de tour, je vais signer ta lettre de candidature. » J'ai pris sa parole.
Et quand un chef ne signe pas la lettre de candidature, tu ne peux pas te présenter pour le parti. Donc, quand Philippe Couillard dit à François Ouimet, je ne signe pas, ça veut dire que Ouimet ne peut pas se présenter comme candidat libéral. Et là, j'ai un chef de parti devant moi, Jean-François Lisée, chef du Parti québécois. Bonjour.
Bonjour, Bernard Drinville.
On va pas... des moments comme ceux-là, c'est pas le temps de faire de la politique partisane, de voir un collègue, parce qu'à l'Assemblée nationale, au-delà des partis politiques, on finit par se connaître comme être humain, comme père, mère de famille et tout le reste. Quand on voit un collègue, même s'il est d'une autre formation politique, vivre des moments comme ceux-là, moi, je trouve ça très difficile en tant qu'ancien député. Et je suis certain que vous n'avez pas trouvé ça drôle non plus ce matin, vous.
François Ouimet est un gentleman. Hein, de tous les... Il était vice-président de l'Assemblée nationale, donc sa fonction faisait en sorte qu'il devait respecter chacun.
Et s'élever au-dessus de la mêlée.
S'élever au-dessus de la mêlée, mais c'était aussi dans sa personnalité. Maintenant, ce qui se passe aujourd'hui, moi, je me pose une question... Où sont les membres du Parti libéral de Marquette? Comment ça se fait que ce n'est pas eux qui décident qui sera leur candidat? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une investiture contestée?
Bien, ils devaient en avoir une investiture, ça devait être aujourd'hui même, oui. Puis ils l'ont annulé. Exact. Le parti l'a annulé à la dernière minute.
Alors, vous avez remarqué que, bon, on savait qu'à la CAQ, François Legault désigne lui-même, personnellement, sans parler à ses membres, qui sont très peu nombreux, chacun de ses candidats dans 125 comtés.
Oui.
Théoriquement, au Parti libéral, il est censé y avoir des investitures ouvertes. Je n'en ai pas vu une seule. Je ne sais pas si vous en avez vu, Bernard, vous avez suivi ça de près. Ça veut dire que aussi...
Une investiture contestée,
contestée au Parti libéral.
J'en ai pas vu.
Alors, ça
veut dire... Il y en a peut-être eu, là, mais j'en ai pas vu.
Moi, j'ai essayé de suivre ça de près. Nous, on en a eu beaucoup,
ouais,
de candidatures contestées. Dans Lac-Saint-Jean, il y avait 3 personnes qui se présentaient, il y avait 400 personnes dans la salle. Dans Pointe-aux-Trembles, il y avait 300 personnes, des membres pour choisir. On en a eu un peu partout au Québec parce qu'on est un parti démocratique. Mais là, il faut voir aujourd'hui, avec l'affaire de François Ouimet, qu'il n'y a pas de démocratie au Parti libéral du Québec. C'est Philippe Couillard qui décide qui va être candidat où.
Ouais.
Et ça dit quelque chose.
Mais je vais
sur
vous dire.
Un parti démocratique qui a des membres et qui débat, c'est un parti qui est connecté.
Mais pour monsieur et madame tout le monde qui nous écoute, là, moi, je vais vous dire ce que ça dit, surtout, là, Jean-François Lisée, c'est que la politique, c'est de la M. Puis tout ce qu'ils font, c'est se trahir, puis se donner des coups de poignard dans le dos, puis les gens dans qui ils font de la politique sont pas fiables, ils donnent leur parole, puis finalement, ils la respectent pas. C'est très mauvais pour la politique, ce qui s'est passé il y a quelques minutes, parce que les gens vont dire, regarde, je vais le dire, là. Non, en fait, non, je le dirai pas.
Mais oui,
les gens sont capables de mettre des mots, là.
Ils
sont tous des ci puis des ça, là, tu sais.
Oui, mais heureusement qu'on a des gens aguerris comme vous qui dites, ne généralisez pas, Philippe Couillard vient de briser sa parole envers le doyen.
On va voir, faut voir ce que Philippe Couillard va dire. Hein? Attention, on n'a pas sa version des faits.
C'est sûr.
On n'a pas sa version des faits.
Mais là, les informations qu'on a, c'est ça. C'est pas le Parti québécois, c'est pas tout le monde. Alors, heureusement que vous êtes là pour dire de ne pas généraliser.
Oui, mais moi, ma ligne là-dessus, c'est pas de dire il y a des partis qui sont mauvais puis d'autres qui sont meilleurs. Ma ligne, c'est de dire la vaste majorité des élus, peu importe le parti, sont là pour les bonnes raisons. Et quand je vois une affaire de même, ça me fait de la peine pour les politiciens et les politiciennes, tout parti confondu, parce que je pense que c'est pas bon pour la politique. Ça inspire pas confiance puis ça incite pas les gens à aller en faire. Parce qu'ils se disent, je vais aller me présenter pour n'importe lequel parti puis je vais me faire poignardé à un moment donné par mon chef.
Ben moi, je suis là pour vous dire qu'au Parti québécois, ça ne se passe pas comme ça. Bon. Et que, comme vous le savez, il y a des lieux où j'aurais aimé, comme chef, d'avoir tel candidat ou telle candidate. Et les membres ont décidé que ce serait quelqu'un d'autre.
Oui.
Je les ai félicités et je vais travailler avec eux. Et de dire, dans une journée comme celle-ci, qu'il y a un parti démocratique au Québec qui est le Parti québécois, c'est important de faire cette distinction. Puis je suis content d'être là pour pouvoir
le dire. D'accord. Puis je veux dire, on est en campagne électorale dans les faits. Puis d'abord, moi, je vous souhaite bonne chance. Je souhaite bonne chance à tout le monde.
Mm-hmm.
Parce que je veux qu'ultimement, on ait une belle campagne avec des bonnes idées pour que le citoyen qui nous écoute fasse le meilleur choix possible. Et là, vous, aujourd'hui, vous faisiez un point de presse sur l'Est de Montréal. Je veux pas tellement parler de ça. Je veux d'abord que vous me disiez un petit peu où vous étiez cet été. On vous a moins vu. Et c'est pas un reproche que je vous fais. C'est une question très ouverte. Est-ce que vous avez décidé de vous reposer pour être davantage d'attaque pour la campagne? Est-ce que c'est un choix, délibéré que vous avez fait?
Alors, j'ai fait deux choses. J'ai été extrêmement présent dans les régions du Québec. J'ai été dans 17 villes du Québec. J'ai été à Chibougamau, voir un excellent candidat, Jonathan Mattson. J'ai été aux Îles-de-la-Madeleine avec notre candidat Joël Arsenault. J'ai été...
Vous arrivez des îles, là. Hein?
Oui, j'étais aux îles. Mmh. Je suis allé dans Prévost avec Paul-Saint-Pierre Plamondon. On a eu 75 personnes en 24 heures d'avis pour mobiliser. J'ai été dans Châteauguay avec Stéphane Bergeron.
Vous avez été présent dans les comtés?
Dans 17 villes du Québec
où
il n'y avait pas de presse nationale, souvent de la presse locale. J'étais très présent. Aussi, notre pré-campagne un peu humoristique d'autodérision sur notre résilience a été la chose la plus vue au Québec cet été, plus que les points de presse de François Legault ou de Philippe
Couillard. Oui, il y a un consensus là-dessus que ça a été bien réussi.
C'était très présent, mais je vais vous faire un énorme aveu.
Oh boy!
Moi, j'ai 5 enfants, je suis père de famille, puis c'est pas vrai que dans aucune situation, on va me dire « tu verras pas tes 5 enfants au chalet pour te baigner avec eux, faire des casse-têtes puis du coloriage ». Parce que
c'est vrai ce que vous dites là. Vous n'essayez pas de faire de la politique avec la famille. Là.
Ben, écoutez, moi, je veux être un premier ministre qui est très proche de la famille, puis je suis un père de famille, puis je vous le dis, premier ministre, je vais prendre des vacances avec ma famille. C'est vrai que 2 heures par jour, j'étais au téléphone, puis sur mes textos, puis on me le disait, pas à table, papa, pas à table, etc. Bon, donc on n'est jamais complètement débranché. Mais moi, mon éthique de vie, c'est que c'est une bonne habitude de vie pour un premier ministre, un ministre ou qui que ce soit, d'essayer de décrocher puis de donner du temps à sa famille pendant l'été.
Il n'y a pas personne qui va vous reprocher ça. On n'a pas, évidemment, le temps de tout couvrir. Mais dans l'entrevue que vous avez donnée aujourd'hui à la presse, vous avez clairement indiqué là, que la santé, ça allait être... Moi, ce que je décode, c'est que la santé, ça va être votre grosse priorité. Là. En tout cas, au début du mandat, vous voulez vraiment vous attaquer à ce chantier-là. Et vous dites, écoutez, on va décloisonner d'abord les ordres professionnels. On veut que les infirmières en fassent plus, les pharmaciens en fassent plus. Ça fait des années qu'on le dit. Je suis certain que vous avez l'appui massif des citoyens là-dessus. Par ailleurs, vous dites aussi que vous allez suspendre la hausse de rémunération des médecins. Et là, Madame la présidente de la FMSQ, Madame Francœur, a dit, a vous envoyé un message à vous et à Legault, parce que Legault aussi veut remettre en question cette entente-là. Elle a dit, gardez, arrêtez de retourner en arrière. L'entente est signée par l'État québécois. Pourquoi continuer la chicane? Pourquoi continuer la confrontation? Puis si vous voulez jouer là-dedans, on va vous traîner devant les tribunaux. Essentiellement, c'est ça qu'elle dit. Pourquoi retourner là-dedans, Jean-François Lisée? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux tourner la page sur le conflit avec les médecins puis regarder en avant?
En avant, là, si les libéraux sont réélus, 7 milliards de dollars d'argent des contribuables vont être donnés à 22 000 médecins au cours des 8 prochaines années. Puis cet argent-là, on en a besoin pour augmenter de 500 millions par année les soins à domicile qui ont été rationnés par les libéraux. On en a besoin pour
Les aînés, notamment les personnes handicapées.
Et les handicapés. On en a besoin pour faire en sorte qu'il y ait une infirmière spécialisée dans chaque CLSC du Québec, prête à prendre vos petites urgences jusqu'à 9 heures le soir, tous les jours de la semaine. On en a besoin pour réduire le fardeau des infirmières qui sont en épuisement professionnel à la fin de leur chiffre pour leur dire non, vous n'allez pas avoir du temps supplémentaire obligatoire. Cet argent-là, on en a vraiment besoin.
Donc, quitte à faire la guerre aux médecins, puis quitte à se retrouver devant le tribunal.
C'est sûr qu'ils vont être, qu'ils vont se défendre. Mais moi, je sais que Mme Francoeur, c'est une chose. Il y a 1000 médecins, Bernard Drinville, 1000 médecins qui ont signé une pétition pour dire « Nous, ce 7 milliards-là, on ne le veut pas. On a une conscience sociale, on voit qu'il y a d'autres besoins. »
On trouve qu'on est assez bien payé.
Ouais, ouais. Et que donc, et d'ailleurs, un des organisateurs de cette pétition est candidat pour le Parti québécois, c'est le docteur Éric Tremblay dans Repentigny. Ouais. Et moi, je sais qu'à l'intérieur de la profession médicale, il y a du monde qui savent que c'était trop. Et il faut qu'il redonne.
Oui, c'est vrai, ce qu'il y en a, moi aussi j'en connais. Il nous reste 2 minutes. Je suis toujours étonné quand je vous rencontre, quand je vous parle, quand je vous ai en entrevue, je vous trouve fort entre les deux oreilles. Parce que les chiffres, encore ce matin, vous avez vu les projections électorales là, de Québec 125, ils ont pris l'ensemble des sondages des derniers mois, là, et puis là, ils font une espèce de moyenne, donc c'est basé sur plusieurs sondages, là, et puis là, la CAQ parle... Au jour d'aujourd'hui, là, c'est pas demain, mais maintenant, là, la CAQ part grosso modo avec 35 % des votes, les libéraux autour de 31 % puis le PQ est autour de 19-20. Comment vous faites pour garder l'espoir que vous pourrez quand même tirer votre épingle du jeu puis que vous n'êtes pas battu d'avance puis que, dans le fond, cette élection-là, elle est ouverte puis que vous pouvez encore la gagner? Comment vous vous convainquez de ça? C'est parce que ça fait des mois que les sondages disent « ça va pas bien ».
J'ai vu neiger. Bernard, j'ai vu neiger. Puis que le Parti québécois soit en début de campagne l'underdog, oui. Ça fait partie de notre histoire. René Lévesque était l'underdog en 76. C'est pour ça qu'il était tellement surpris de gagner même. Au début de la campagne référendaire en 95, les sondages comme ça le disaient qu'on allait être écrasés.
Ben oui.
On est monté à 49,4 %. Puis je vous dis, pour cette élection-ci, 49,4, ça me suffirait comme chef du Parti québécois. Ouais. Même Lucien Bouchard, dont j'étais conseiller en 98, c'était sûr que Charest allait gagner l'élection. Alors moi, je vais vous poser une question à vous, Bernard Drinville.
Oh boy.
Puisque vous savez que toutes ces évaluations de pré-campagne sont de très médiocres prédicteurs du résultat, pourquoi vous leur accordez tant d'attention?
Oui. Moi, je vais vous dire, d'abord, quand vous étiez dans ma position, pas exactement la même, mais que vous étiez dans le métier, mettons, le métier du journalisme ou du commentariat, vous en parliez des sondages, Jean-François Ligier.
Jamais autant c'est... que vous. Vous brisez le record, Bernard, je vous le dis.
C'est important pour vous. Mais moi, je vais vous dire une chose. Il y a une certitude avec les élections, c'est qu'il y aura des surprises.
Exact.
Ça, c'est sûr qu'il y aura des surprises.
C'est presque la norme des dernières élections. Alors, c'est pas une norme absolue, c'est presque la norme.
Alors, la question est de savoir quelles seront ces surprises.
Ben, je vais vous dire la surprise.
Vous allez m'en prédire une, puis on va conclure là-dessus.
Oui. Je serais beaucoup plus inquiet
ouais.
si le programme de François Legault était crédible.
Bon.
Il est
ça va être ça, votre ligne d'attaque?
Ben non, mais
il est
je pas vous
fiable.
Dis, là,
c'est fait, la même on, ligne on d'attaque, les, écoutez, c'est même, c'est la même ligne d'attaque fait, que on, les libéraux. Il est pas fiable.
Vous me pourquoi je suis confiant, je vous réponds. Si François Legault ne disait pas qu'on va demander à 40 000 immigrants de venir, puis on va leur dire « restez 3 ans, puis ça se peut qu'on vous renvoie », s'il disait pas qu'on va construire des barrages dans le Nord qui vont coûter plus cher que ce que n'importe qui veut acheter,
vous auriez peur.
S'il disait pas qu'on va baisser les impôts puis augmenter les dépenses, ouais. ben là, je serais dans le trouble s'il y avait un programme crédible, mais il n'est pas crédible.
Okay.
Et ça va... très facilement se voir pendant cette campagne.
Vous êtes chanceux, parce que je vous avais dit que c'était la fin de l'entrevue, fait que je vous laisse terminer sur cette attaque contre François Legault. C'est pas la dernière.
C'est un constat. C'est un constat.
Alors, Jean-François Lisée, chef du Parti québécois, je vous souhaite une bonne campagne électorale.
Merci. Et une bonne couverture pour vous aussi.
Oui, très
moins
bien.
Moins de sondages, plus de faits.
Dans un instant, parlant de faits, c'est un fait que le train de banlieue de Deux-Montagnes, là, c'est un fait que c'est des maudits retards les uns après les autres. Ça n'arrête pas. Le service est pourri. Et là, imaginez-vous donc le gouvernement, avec les autorités régionales, puis peut-être même la Caisse de dépôt, vont compenser les utilisateurs. Vous allez savoir comment après la pause.